Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Nous continuons aujourd'hui une série de discussions sur la croissance spirituelle du chrétien. Et la parabole bien connue du semeur nous servira de référence.
À présent, Sandra va lire cette parabole qui raconte une histoire courte illustrant des vérités spirituelles fort importantes. Elle se trouve dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 9.
Ce jour-là, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'assit. La foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit : Un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et, ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés. Et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. Celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains, enfin, tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de 100, 60 ou 30 pour 1. Celui qui a des oreilles, qu'il entende.
Nous sommes contents d'accueillir Étienne sur le plateau d'Espérance aujourd'hui. Il va nous aider à mieux comprendre le sens de cette parabole. Bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
La dernière fois, nous avons appris que le semeur représente Jésus et la semence, l'enseignement qu'il est venu apporter. Car le désir de Jésus est que sa parole produise du fruit dans nos vies, un fruit qui est le reflet d'une vie transformée à son image. Cependant, tout comme dans un champ, nombreux d'éléments vont œuvrer pour empêcher les graines de bien se développer, dans nos vies aussi. Il existe des circonstances qui peuvent intervenir pour nous empêcher de faire des progrès et croître sur le plan spirituel. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons aborder le premier élément cité dans la parabole qui pourrait entraver tout progrès spirituel.
Oui, Yann, nous allons donc nous pencher sur le verset qui dit « Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, les oiseaux vinrent et les mangèrent. » Heureusement, quelques heures plus tard, les disciples de Jésus s'approchèrent de leur maître et lui demandèrent d'éclaircir le sens de cette parabole, ce que Jésus fit. Écoutez ce qu'il leur dit au sujet du verset que nous venons de lire. « Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. »
Ainsi, le diable peut agir de telle sorte que nous ne parvenions pas à croire au message apporté par Jésus.
Tout à fait. L'apôtre Paul écrit « Le Dieu de ce monde a aveuglé l'esprit des incrédules et les empêche ainsi de voir la lumière de la bonne nouvelle. » De même, l'apôtre Pierre a déclaré « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. » Et pour revenir à l'illustration de notre parabole, le diable demeure à l'œuvre pour empêcher la semence de la parole de Dieu de germer et de donner la vie. Et là où cette semence prend racine, le diable entreprend tout ce qui est en son pouvoir pour entraver notre croissance vers une maturité spirituelle.
Ainsi, nous devons être vigilants afin de nous protéger des ruses du diable. Mais comment agit-il, car nous devons contrecarrer ses projets?
Revenons au début de la Bible et souvenons-nous de la manière dont le diable a agi pour séduire Adam et Ève, pour les convaincre de désobéir à l'Éternel. Nous lisons en Genèse au chapitre 3 l'entretien qui eut lieu entre le diable, déguisé en serpent, et Ève. Tout au long de cet entretien, nous constatons que le diable a employé sa ruse préférée, mettre en doute la véracité de ce que l'Éternel déclare, remettre en question la parole de Dieu. Adam et Ève désobéirent à Dieu tout simplement parce qu'ils n'ont pas cru que ce que l'Éternel leur avait dit était vrai. De plus, ils se sont mis plutôt à croire aux mensonges du diable.
Et vous affirmez que le diable emploie ce même stratagème encore de nos jours?
Oui, le diable sème le mensonge dans les cœurs et influence grandement les gens. Or, ce qu'il veut faire croire est en contradiction avec la parole de Dieu, trouvée dans la Bible, qui est la vérité. Satan incite le monde à mener des vies qui semblent à première vue attrayantes, mais qui s'avèrent être dangereuses et porteuses de lourdes conséquences. Ces divers mensonges du diable sont tellement présents et ancrés dans notre société qu'ils aveuglent les gens, les rendant prisonniers de fausses croyances et les empêchant de voir toute la gloire et la grâce de Jésus-Christ. Ces mensonges de l'ennemi sont si puissants que même ceux et celles qui professent être chrétiens luttent sous leur influence et ne parviennent plus à porter du fruit.
Mais est-il possible de sortir de cet aveuglement?
Oui, cela est possible, car Jésus-Christ est plus puissant que le diable. Toutefois, cette parabole contient des éléments sur la manière dont nous pouvons réagir. Souvenons-nous, les chrétiens qui grandissent et qui portent du fruit sont ceux et celles qui croient en la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ainsi, pour lutter contre les mensonges du diable, nous devons croire avec conviction que ce que l'Éternel annonce est vrai, et pour contrecarrer les attaques de l'ennemi, nous devons placer notre confiance en la véracité du message de la Bible. Pour remporter des victoires spirituelles, nous devons être prêts à mener des vies entièrement à la lumière de l'enseignement de Jésus.
Donc en somme, nous sommes constamment devant un choix. Croire le diable ou croire Dieu?
C'est exact, Yann. Et si nous croyons aux mensonges du diable, nous récolterons le malheur, nous serons victimes de circonstances catastrophiques, et pour finir, notre destin éternel sera l'enfer. Si par contre, nous croyons Dieu, nous récolterons un fruit qui l'honore, le fruit d'une vie transformée en son honneur, et nous connaîtrons aussi la vie éternelle.
Le choix semble facile à faire.
Oui, mais le diable possède cette faculté pernicieuse d'embrouiller notre raisonnement et de nous faire croire que le bien est mal, que le mal est bien. Nous devons nous rappeler constamment que les seules paroles dignes de confiance sont celles qui viennent de l'Éternel, celles annoncées par Jésus-Christ. Nous devons ainsi nous accrocher farouchement à cette conviction que la Bible est la vérité. Rappelons-nous les paroles de l'apôtre Paul, écrites à l'église de Rome. Pouvez-vous lire au chapitre 12, le verset 2, s'il vous plaît, Yann?
Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait.
Nous avons besoin de beaucoup de discernement. Au lieu de suivre les raisonnements du monde, nous devons réfléchir à la façon de bien mener nos vies. Nous devons acquérir un discernement juste, en permettant à l'Éternel, par le biais de la Bible, de façonner notre raisonnement, notre vision du monde, notre compréhension des événements qui se déroulent dans nos vies. Plus nous serons imprégnés de l'enseignement de la Bible, plus nous serons armés pour discerner les mensonges du diable, lutter contre lui, et plus nous porterons du fruit à la gloire de Dieu.
Le moment est venu d'introduire notre courte méditation biblique. Dans la série que nous poursuivons aujourd'hui, nous réfléchirons sur le sens des divers noms et titres attribués à celui qui demeure au centre des quatre évangiles.
Nicolas est de retour parmi nous, et le titre qu'il va étudier est certainement parmi les plus connus, car il s'agit du Christ. Mais que signifie donc ce titre, le Christ? Écoutons la suite de notre émission pour en savoir plus.
Alors que Jésus poursuivait son ministère en enseignant les foules et qu'il accomplissait des miracles et des prodiges, les gens se posaient des questions. Ils se demandaient qui était cet homme. De telles interrogations apparaissent dans les évangiles. Par exemple, en Matthieu chapitre 16, nous lisons
« Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme? Qui est-il d'après eux? » Ils répondirent « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre lui répondit « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela, c'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. »
Confronté à cette question « Qui est Jésus ?», le disciple Simon-Pierre en arrive à la conclusion que Jésus est véritablement le Messie. Or, ce titre traduit en grec ancien ou dans nos langues modernes devient « le Christ ». Simon-Pierre ainsi confesse publiquement que Jésus est le Messie, le Christ. Et par sa réponse, Jésus confirme qu'il est en effet ce Messie. D'ailleurs, jusqu'à nos jours, Jésus est souvent appelé Jésus-Christ. Mais que signifie donc ce mot « le Messie » ou « le Christ » ? Tout d'abord, il s'agit plus d'un titre que d'un nom. Ensuite, la traduction littérale de ce mot signifie « celui qui est oint de l'Éternel ». Dans la culture de l'ancien Moyen-Orient, le fait d'oindre une personne d'huile prouvait sa consécration à une tâche toute particulière. Par exemple, les rois en Israël étaient oints lors de leur avènement au trône afin de proclamer aux hommes qu'ils étaient approuvés de l'Éternel et consacrés pour régner sur la nation d'Israël. Toutefois, beaucoup de rois en Israël ont exercé un règne décevant, car au lieu d'établir le droit et la justice, ils précipitèrent le pays vers l'idolâtrie, l'injustice et l'immoralité. Plongés dans un tel contexte, les prophètes annoncèrent au peuple que l'Éternel enverrait un jour le Messie, le Christ par excellence, le roi sauveur, qui viendrait pour accomplir les nombreuses promesses de Dieu. Ce roi sauveur serait un personnage tout à fait exceptionnel. Son règne et son salut dépasseraient les frontières de la nation d'Israël pour atteindre tous les peuples, toutes les nations de la terre. Son règne dépasserait également les contraintes du temps, il serait éternel. L'Éternel, dès le début de l'histoire de l'humanité, avait prévu et préparé la venue du Christ. Or, Pierre sut reconnaître en Jésus ce Christ que nous aussi nous reconnaissons aujourd'hui. Ce roi sauveur est venu une première fois pour mourir sur la croix afin de procurer au monde le pardon des péchés. Or, le Christ reviendra une deuxième fois, cette fois-ci pour instaurer son règne dans de nouveaux cieux et sur une nouvelle terre. Là, il y bannira le mal sous toutes ses formes. Il y apportera la paix et la justice, la prospérité et la sécurité. Dans son royaume, la mort n'y sera plus, les larmes n'existeront plus, et le plus formidable encore, nous verrons l'Éternel face à face et nous nous réjouirons dans sa présence dans une allégresse sans pareille. Mais que nous reste-t-il à faire aujourd'hui? Comme Pierre a eu l'occasion de l'écrire bien plus tard, reconnaissez le Christ dans votre cœur. C'est-à-dire, faites-lui confiance, il est le Sauveur. Soumettez-vous à lui en tant que roi et attendez avec patience, rempli d'espérance, son prochain retour.
C'est sur ces belles exhortations que nous voulons conclure notre émission. Nicolas sera de retour la prochaine fois pour nous parler de Jésus, dont le nom est aussi Emmanuel. Alors, au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.